connaissez peut-être cette réflexion de Mark Twain. Sinon, je vais vous l'apprendre. Mark Twain, le grand humoriste américain, disait: quand j'avais 14 ans, je pensais que mon père était l'homme le plus ignorant du monde. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir David et Sébastien au premier rang. Mais il ajoutait, quand j'ai eu 24 ans, j'ai vraiment été émerveillé par tout ce qu'il avait pu apprendre en seulement 10 ans. La maturité. La maturité, encore une fois, c'est quelque chose que nous attendons dans la vie de nos enfants. Des fois, c'est plus loin à venir qu'on ne le souhaiterait. Mais ça devait être très dur pour Paul, notre apôtre favori, ou l'un de nos apôtres favoris. Lui aussi, ça devait être difficile d'attendre la maturité des chrétiens de Corinthe. Il était un peu leur père spirituel. Mais eux, ils mettaient du temps à grandir. Et cette lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième, nous arrivons bientôt à la fin de cette lettre. Nous voyons à quel point Paul livre son cœur. Et on pourrait dire au premier abord qu'en fait, là, il ne fait que défendre son ministère en disant qu'il a, il a l'autorité apostolique nécessaire. C'est-à-dire qu'il parle en tant que véritable apôtre, que ce qu'il dit est inspiré par Dieu. Mais en fait, s'il se défend de la sorte, c'est parce qu'il les aime. Il les aime de tout son cœur. Un peu comme une maman, un papa aime leurs enfants. Peu importe ce que les enfants pensent d'eux. C'est pas toujours facile. Ces années d'adolescence. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à les aimer de tout notre cœur. Et Paul, il va continuer après avoir annoncé que lui aussi avait eu des visions inspirées. Parce que ses détracteurs disaient qu'il n'était pas... Il n'était pas inspiré, il n'avait pas de vision. Il cite cette vision extraordinaire où il s'est retrouvé au paradis, au troisième ciel. Mais encore là, une fois, ce dont il se vante, ce n'est pas de cette vision grandiose. Mais il se vante de sa faiblesse. Et de cette fameuse écharde ou épine dans la chair que Dieu lui a donnée. Pour éviter qu'il ne s'enorgueillisse. Et donc il continue à partir du verset 11. On va terminer le chapitre 12. Nous allons lire ensemble à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. C'est page 211 dans la Bible bleue. Si quelqu'un a besoin d'une Bible, vous pouvez lever la main, il en reste encore quelques-unes. Voilà, il peut venir et rester assis au premier rang. Voilà. Verset 11, je lis dans la Bible à la Colombe. « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. En effet, c'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai été nullement inférieur aux apôtres prétendus supérieurs, bien que je ne sois rien. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises ? Sinon que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi cette injustice-là. Voici, je suis prêt à aller chez vous pour la troisième fois, et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à masser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous ? Soit je n'ai pas été un fardeau pour vous, mais un homme fourbe, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés ? J'ai exhorté Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite vous a exploité ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous défendons auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, bien aimé, pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontars, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. Encore une fois, il est très mal à l'aise d'avoir à défendre son ministère. Et il dit qu'il a été comme un fou, comme un imbécile, comme un insensé. Mais il dit, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Lorsque l'on a attaqué mon ministère par des faux prophètes, des faux apôtres, vous auriez dû être les premiers à me défendre. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, c'est ça ce que ça veut dire. Et il dit un paradoxe. Il dit d'un côté, il s'enorgueillit, je n'ai été nullement inférieur aux apôtres prétendus supérieurs. Donc il leur dit, je suis pas moins que ces gens qui se disent inspirés par Dieu, envoyés par Dieu. Mais tout de suite, il ajoute, moi je ne suis rien. Et quelque part, en véritable logique, s'il n'est pas inférieur aux autres, mais qu'il est rien, il dit en fait que les autres sont des moins que rien. Et nous allons voir que Paul, il manipule l'émotion, la vérité, mais aussi le sarcasme, l'ironie. Ça, c'est la marque d'un vrai serviteur de Dieu. Reconnaître que sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais en même temps, Philippiens 4:13, je peux tout par celui qui me fortifie, je peux tout faire si c'est Jésus qui me donne la force, si c'est lui qui me guide.
I can do all things through him who strengthens me.
Ça, c'est difficile d'avoir le bon équilibre, de réaliser qu'en fait, sans Dieu, je ne peux rien faire. Parce que dès que Dieu commence à nous utiliser, on pense qu'en fait, c'est parce qu'on a des talents particuliers qui peut nous utiliser. Et de reconnaître que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux même pas attraper la prochaine bouffée d'air pour ma respiration. Et le vrai serviteur de Dieu doit reconnaître cet état de choses.
Chuck Smith,
qui a été l'homme derrière le mouvement Calvary Chapel, aurait bien des raisons de s'enorgueillir. Mais le plus souvent, il dit, je suis comme un spectateur de ce que Dieu fait avec moi dans ma vie et de ma vie. Et un secret, c'est que si on est prêt à rendre la gloire à Dieu, alors Dieu dit, je peux utiliser cet homme, je peux utiliser cette femme. Il va leur montrer qu'il a les signes distinctifs de l'apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre ? Ça veut dire simplement être envoyé par Dieu. Mais au sens du Nouveau Testament, les apôtres, il y en avait 12. Judas a failli. Il a été remplacé par Matthias. Non. Acte 1. C'est bien Matthias, non? Matthias. Comment dire en anglais? Matthias? Matthias. Et puis quelque part, il a été aussi. Paul a été l'apôtre que peut-être Matthias ne devait pas être. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de Matthias. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait des qualifications. Pour être un apôtre officiellement, il fallait avoir connu le Seigneur Jésus-Christ en personne. Il fallait avoir été témoin de sa résurrection. C'est-à-dire qu'il fallait l'avoir vu vivant après sa mort sur la croix. Et il fallait avoir été l'agent utilisé par Dieu pour des miracles. Et lorsque les apôtres décident justement dans Acte 1 de chercher un remplaçant à Judas, ils disent, verset 22, « Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. » Et dans ce sens-là, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. On peut encore parler du don d'apôtre. Pour ceux qui sont utilisés par Dieu, peut-être pour implanter des grands mouvements de réveil dans le monde. Mais des apôtres au sens où l'entendait Paul, il n'y en a plus. peut dire que il y a un passage, Éphésiens 4, qui dit que les Dieu fait des dons aux hommes, il leur donne des apôtres. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, nous en bénéficions encore. Il est mort, mais il parle toujours. Ça fait 6 mois que nous passons les dimanches en sa compagnie. Nous essayons de voir ce qui motivait ses paroles, sa pensée, ses émotions. Et là, au verset 12, Paul parle des signes distinctifs, des marques d'un apôtre. Il dit que ces signes distinctifs, ils ont pu les voir à l'œuvre par lui-même, au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ce qui est frappant, c'est qu'avant les miracles à proprement parler, il insiste sur la patience dont il a fait preuve. La patience, le mot grec, ça veut dire se tenir dessous. To stand up under. Un peu comme si on a les épreuves qui nous accablent, mais on arrive à tenir le coup, à redresser et à tenir sous la charge. C'est l'endurance, c'est la persévérance. Et ça doit être un signe pour vous aussi, des vrais serviteurs de Dieu. Il existe, je crois, des ministères itinérants sérieux et valables. Les évangélistes peuvent venir et puis faire des messages qui vont toucher une population et repartir et laisser aux soins des églises de continuer, de faire le travail de suite. Mais il faut se méfier des évangélistes qui vous annoncent des grandes choses et qui s'en vont sans laisser personne en charge pour le suivi. Voyez des fois des signes des pasteurs qui passent ici pour un week-end, le lundi de Pentecôte par exemple. Faire des grandes réunions où tout le monde doit être guéri, c'est affiché à l'avance. Hein. C'est pas le Saint-Esprit qui est en charge, c'est eux qui ont décidé du programme. Et le mardi matin, ils sont loin. Ils sont même pas en relation avec une église ici. Méfiez-vous de ces apôtres, entre guillemets. Pour Paul, la patience était la clé. Après, il y avait les miracles. Il utilise les termes de signes, de prodiges, de miracles. Je crois qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il y avait trois espèces de choses, qu'il y avait des signes, et puis à côté, il y avait des prodiges, et puis là, il y avait des miracles. C'est simplement ce qu'on appelle des miracles, des choses extraordinaires. Il y avait trois aspects, l'aspect d'un signe, qui avait un sens symbolique, qui signifiait quelque chose aux gens. Il y avait ces miracles avaient aussi l'aspect du prodige, de quelque chose de surprenant, qui résulte d'une grande puissance. Et le mot miracle, c'est le mot duquel on a tiré le mot dynamite. Cet événement montre de façon incontestable la toute-puissance de Dieu. Paul n'insiste pas sur les miracles qu'il a faits. Encore une fois, si on insiste sur les miracles dont on a été l'instrument, la tendance va être d'attirer de la gloire sur nous-mêmes. Comme on l'a dit au départ, Dieu ne peut pas utiliser des hommes qui veulent se glorifier. Dans le livre des Actes, on a le récit de nombreux miracles. Où Paul est un instrument utilisé par Dieu. Acte 2:22. Paul parle de Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait pour lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. C'est Dieu qui fait les miracles. Danger avec les miracles, c'est que Satan peut inspirer des miracles. Ma sœur a été guérie d'un cancer il y a 15 ou 16 ans. Elle est toujours malheureusement dans une secte. Ma première réaction, c'est de penser qu'en fait, il n'y avait pas eu de guérison. Mais j'ai pensé plus tard qu'en fait, il y avait eu peut-être une vraie guérison. Parce que si dans une fausse religion, elle pouvait faire l'expérience d'un miracle, pourquoi venir à Jésus ? Il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10, que l'avènement de l'Antichrist, l'avènement de l'impie, se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, 9 et verset 9 et 10. Dans Marc 16, versets 17 et 18, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Certains pensent qu'on ne doit pas utiliser ces versets pour tous les croyants. Qu'il ne s'agit pas de dire maintenant que je suis chrétien, je vais aller jouer avec des vipères. Ce serait tenter le Seigneur. Ce que la Bible condamne complètement. Et il est vrai que dans le contexte, après sa résurrection, les disciples, les apôtres qui ne croyaient pas à sa résurrection. Marie-Madeleine venait de courir pour dire aux apôtres qu'il était ressuscité.
Mary Magdalene came running to come and tell the disciples.
Et il dit, ils ne la crurent pas.
And he said that they didn't believe her.
Et Jésus leur dit, ceux qui croiront, ils pourront faire ces choses.
And Jesus said, those that believe will be able to do these things.
Sans trancher pour savoir si ces choses s'appliquent à tous les croyants, bien entendu, sans tenter le Seigneur.
So without knowing when these things apply to all believers.
Il est frappant de remarquer que ces descriptions, ça correspond à ce que Paul a vécu dans le livre des Actes. Il a chassé des démons.
He cast out demons.
Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul.
God did incredible miracles by using Paul's hands.
Lors de son naufrage, lorsqu'il a pris et qu'il a été sur la terre ferme et qu'il a pris ses branches, il a eu une vipère qui s'est entourée autour de lui, qui ne lui a pas fait mal.
When he was shipwrecked and he picked up a branch and turned into a viper and it didn't hurt him.
On dit que son ombre qui passait sur les malades faisait qu'ils étaient guéris. Les gens prenaient le mouchoir qu'il avait utilisé pour s'essuyer la sueur. Et ils étaient guéris. Mais ce qui est frappant, c'est que il dit, vous savez qu'il y a eu des miracles. Il n'en fait pas tout un foin. Il ne s'en vante pas. Je crois que c'est pour ça que Dieu pouvait l'utiliser. Est-ce que Dieu pourrait vous utiliser pour faire des miracles? Est-ce que vous pourriez prier pour une personne qu'elle soit guérie sans que vous ne disiez, oui, j'ai prié pour un tel et regarde, maintenant elle va bien? Encore une fois, Chuck Smith dit qu'on voit moins de miracles parce qu'on trouve moins de personnes prêtes à donner toute la gloire à Dieu. Paul dit, il fallait des miracles, vous les avez vus. Et puis il ajoute, toujours avec beaucoup d'ironie, je dois peut-être vous demander pardon en fait de vous avoir jamais demandé de l'argent. La seule chose à laquelle je puisse penser que j'ai pas fait chez vous, que vous avez eu de moins que les autres églises, c'est que j'ai pas été à charge auprès de vous. Et il dit même, pardonnez-moi cette injustice. J'espère que vous voyez toute la puissance de l'ironie, du sarcasme de Paul. Mais en même temps, tout de suite après, verset 14, on voit son amour inconditionnel pour les Corinthiens. Il leur annonce qu'il va venir les voir. Il leur dit, rassurez-vous, je ne vous demanderai rien, toujours rien. Je ne vais pas être un fardeau. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il ne laissait pas les églises le soutenir financièrement. Mais là, il leur dit en quelque sorte, vous n'êtes pas encore assez mûrs pour faire ça. Je ne vais pas vous embêter avec ça. L'amour inconditionnel de Paul. Il va aller pour donner sans rien espérer en retour. Il leur dit, je cherche ce qui est à vous, mais je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ça, c'est une phrase que les enfants aiment bien entendre. C'est chouette, hein? C'est pas moi qui vais assurer la retraite de papa. C'est plutôt lui qui va m'aider à démarrer dans la vie. Et Paul, il leur dit, spirituellement, vous êtes mes enfants et je ne vais pas vous demander de me payer, de me donner des choses. C'est moi qui viens vous donner. Vous avez déjà peut-être entendu l'histoire de la maman qui un matin avait trouvé une petite note sous sa tasse laissée par son fils. Il avait fait une petite liste, il avait marqué 10 francs pour avoir tondu la pelouse. 5 francs pour avoir essuyé la vaisselle. 5 francs pour avoir balayé la cuisine. 15 francs pour avoir nettoyé la voiture. Total, 35 francs. Signé, je ne vais pas te dire de nom. Pour avoir repassé tes vêtements, rien. Pour avoir reprisé tes chaussettes,
amended your socks,
rien.
Nothing.
Pour avoir cuisiné tes repas, rien.
Nothing.
Pour avoir préparé des gâteaux pour toi, rien.
Nothing.
Je t'aime.
I love you.
Signé maman.
Find your mother.
C'est cet amour inconditionnel que Paul a pour les Corinthiens. C'est cet amour inconditionnel qu'un serviteur de Dieu doit avoir pour ceux qui l'entourent. Désintéressement.
Being completely disinterested.
Est-ce que mon amour pour vous est désintéressé?
And is this love that I have for you without any attachments?
Un auteur paraphrasait ce que dit Paul en disant: je ne désire rien de votre part. Je ne veux ni votre argent, ni vos possessions, ni vos dons. Ce que je veux, c'est vous. Votre cœur. Je suis prêt à venir vous voir parce que Dieu m'a amené à l'endroit où je n'ai plus aucun désir pour moi. Verset 15, il dit: pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Il dit: ma seule motivation, c'est que ma vie, elle puisse être utilisée par Dieu pour vous mener à lui. Il ajoute même: en vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Alors ça peut être traduit comme une question, comme une affirmation. Le fait est que plus il les aimait, plus il leur donnait, et moins eux lui montraient de l'amour en retour. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Son temps, ses forces, ses intérêts sont à la disposition de Dieu pour les autres. Il était, disait quelqu'un, comme une bougie qui voulait éclairer le chemin et qui se moquait qu'en même temps il était consommé. Je ferai très volontiers des dépenses, je serai prêt à investir de l'argent, du temps, de l'énergie, de la fatigue pour vous, pour vos âmes. Je vais me dépenser moi-même. L'amour de Paul pour ceux qui l'entouraient était formidable. Parce qu'il avait leur intérêt en tête. Il ne pensait pas à lui-même. Si seulement nous pouvions apprendre à aimer comme ça. Les mamans, les papas aussi un peu, ont une petite étincelle de cet amour. Vous vous souvenez que Paul, il disait qu'il était prêt à aller en enfer si seulement les autres pouvaient être sauvés. Dans Romains 9, 3, il priait pour les Juifs et il disait « Si je souhaiterais être moi-même anathème, c'est-à-dire maudit et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Il y avait un autre homme de la Bible qui avait exprimé ce souhait. C'était Moïse. Dans l'Exode 32, chapitre 32, versets 31 et 33, après le péché que les Israélites, les Juifs avaient commis en se faisant un veau d'or et en se livrant à une adoration licencieuse de orgiaque de ce veau d'or. Moïse disait, ce peuple a commis un grand péché, ils sont fait des dieux d'or, pardonne maintenant leur péché. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel répond, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Pourquoi est-ce qu'il était capable d'un tel amour? Parce qu'il le faisait pour Christ. Quand nous servons les autres, est-ce que nous le faisons pour avoir quelque chose en retour? Avoir leur merci, leur amitié. Tout va bien lorsqu'ils donnent ces choses-là, mais s'ils vous refusent cette reconnaissance, alors est-ce qu'on se fâche, est-ce qu'on devient dur, ou est-ce qu'on continue à servir? Franchement, quand on voit tous les problèmes que Paul avait avec les Corinthiens, moi, ma réaction, ça aurait été d'écrire aux Philippiens. J'aurais écrit une deuxième lettre aux Philippiens. Pierre. Je les aurais oubliés. Assez est assez. Est-ce que vous avez des limites à ce que vous êtes prêt à faire pour aimer quelqu'un? Peut-être vous considérez le ministère à temps plein. Peut-être ce serait bien de devenir missionnaire. De servir dans une église, d'être pasteur. Puis vous vous demandez, mais comment ça marche pour la sécurité sociale? Est-ce qu'il y a une mutuelle? Combien de jours de congés par an? Si je ne suis pas marié, est-ce que ça va poser un problème? Si vous vous posez ces questions, revenez à la case départ. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles, mais où est votre motivation? La semaine dernière, il y avait une phrase qui nous avait frappé, c'était « Ma grâce te suffit ». J'espère qu'elle vous a encouragé. J'ai eu quelques échos. Des personnes m'ont dit cette phrase m'a aidé cette semaine. Cette phrase m'a aidé moi-même. Cette semaine, si vous devez souligner, retenir une seule chose. souligner, je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Verset 14. Ça, cette phrase, Paul la disait aux Corinthiens. Et un auteur que j'aime bien, un auteur anglais, Alan Redpath, dit qu'en fait, s'il était capable de dire cette phrase aux Corinthiens qui étaient si indignes de son amour, c'est parce qu'il avait entendu quelqu'un d'autre lui dire la même chose. Jésus lui avait dit, je ne cherche pas ce qui est à toi, mais toi-même. Cet auteur ajoute qu'en fait, Jésus nous dit la même chose. Ce n'est pas ce que tu peux me donner qui m'intéresse. C'est ton cœur. C'est toi. C'est toi-même. Et la chose merveilleuse, c'est que Jésus, il nous veut avec tous nos problèmes, toutes nos imperfections. Nos échecs, nos défaites, toutes ces choses qu'il ne peut pas changer tant qu'il ne nous a pas tout entier. Il ne veut pas une petite portion de vous. Il vous veut tout entier. Quelque part, je me souviens lorsque je suis, avant de devenir chrétien, j'avais senti qu'en fait, si je donnais ma main au Seigneur, il allait vouloir mon bras, et puis mon torse, et puis tout. Ça ne veut pas dire que j'en sois arrivé à lui donner tout encore. Mais il ne veut pas moins, il vous veut tout entier. De façon que nous puissions dire, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Jeudi soir, nous étions une dizaine à prier à l'église, au local. Quelque part, on sent un encouragement dans l'assemblée. Que les choses commencent à bouger. On va peut-être avoir un outil de travail, ce local bien situé. Des gens partent, mais des gens veulent se joindre à nous pour le ministère. Il y a une espèce d'anticipation. Et nous prions, je priais, Seigneur, utilise-nous dans notre communauté. Quelque part, c'est comme si j'entendais la voix du Seigneur et qui disait, et s'il n'y avait pas de fruits visibles? Je disais, oui, mais Seigneur, ça fait un moment qu'il n'y en a pas. C'est pas vrai, bien sûr. Mais on a le souhait de davantage. Mais il disait, non, mais s'il n'y avait pas de signe, est-ce que tu continuerais? Si les Niçois, te faisaient du mal, t'accusaient de choses qui ne sont pas vraies, est-ce que tu serais prêt à continuer? Je crois que la réponse dépend la beauté du ministère et l'impact du ministère. On aimerait bien voir de belles choses, et c'est bien de les vouloir, mais est-ce qu'on serait prêt à continuer si on se fait rejeter ? Si on continue à être considéré comme des sectes, alors qu'on sait que nous servons le Seigneur, qu'il est la vérité, la vie, le chemin, la vie. Certains d'entre vous connaissent Steve et Suzy, mon beau-frère et ma belle-sœur, qui sont missionnaires à Djibouti. Dans un monde musulman. Si nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de fruits à Nice, ça peut être une insulte pour eux. De voir une salle où il y a peut-être 40 ou 50 personnes. Mais Dieu leur a donné la force de rester là-bas. De voir quelques personnes qui viennent s'intéresser à la Bible et puis qui se font tuer par des persécuteurs. Ce que je cherche, ce n'est pas ce qui est à toi, c'est toi. Jésus vous veut, vous connaissez ce poster de l'oncle Sam qui dit « Uncle Sam wants you ». Jésus, c'est « Je te veux, je te veux, je te veux ». Paul continue en disant qu'il n'a jamais profité d'argent, qu'il y a eu des accusations, mais est-ce qu'ils peuvent montrer une seule fois, dire une seule chose qui parle de ça, qui prouve cela? Il leur dit que quelque part il est un peu anxieux de leur manque de maturité. Il leur dit qu'il a peur d'aller là-bas et de voir qu'il y a des problèmes. Il a peur qu'eux aussi voient un Paul qu'il ne voudrait sans doute pas voir. Un Paul en colère, un Paul qui les reprenne vivement. Encore une fois, verset 19, il leur dit « Tout ce que je vous dis, c'est pour vous bien-aimés. » C'est pas pour se défendre, c'est pour leur faire du bien. Et lorsqu'il cite les problèmes qu'il redoute, nous devons dire qu'il les redoute dans Calvary Chapel Nice. Dans toute église qui veut le servir, Calvary Chapel Olympia, Calvary Chapel Seattle, l'église évangélique baptiste de Nice, toutes ces choses, c'est lourd à lire. Verset 20 et 21. Si vous avez été dans des églises où ces choses étaient prominentes, ces choses étaient prééminentes ou très, très présentes, c'est une grande tristesse. C'est un grand découragement. Discorde, jalousie, animosité, rivalité, médisance, racontard, orgueil, désordre.
Strife, jealousy, angry tempers, disputes, slander, gossip, arrogance, disturbances.
Prions de ne pas tomber dans ces travers, dans ces péchés. Soyons droits dans nos rapports.
Straightforward in the way that we, when we're together.
S'il y a des problèmes, des choses qui ne vont pas, en parlez-en directement à la personne concernée.
And if there are things that are bothering us, let's speak to each other about it directly.
J. Vernon McGee, un auteur américain chrétien, dit qu'il y a des gens qui sont prêts à croire n'importe quoi si on leur dit en chuchotant. Attention.
Be careful.
Attention à ces choses.
Ces
choses, elles n'ont pas lieu d'être si nous passons du temps devant le Seigneur quotidiennement. Si lui demandons sa grâce,
and if we ask for his grace,
si nous nous repentons de nos péchés,
if we repent of our sins,
devant lui et devant ceux à qui nous avons fait du mal,
if we repent in front of God and also those that we have sinned against.
Verset 20, il parle des péchés dans le domaine des relations humaines.
In verse 20, it speaks about sins in human relationships,
plus exactement des relations sociales.
Social relationships.
Et verset 21, il parle des péchés dans le domaine des relations sexuelles.
And verse 21, he speaks about, sins and sexual relationships.
Encore une fois, Corinthe était connue pour sa débauche.
And once again, Corinth was very well known for its immorality.
Pour parler de se livrer à une vie de débauche, on disait se corinthianiser. Ils étaient plongés dans un monde d'immoralité. Si vous pensez qu'on est mieux loti, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Avec les beaux jours reviennent un certain style de publicité dans les rues. Plus tard, lorsqu'il fera plus chaud, il n'y aura même plus besoin de ces soutiens-gorge dont on fait la publicité.
Very soon, nobody will ever even have to wear the underwear that we see on the advertisements.
Les médias, les films,
and movies.
Tout ça nous dit que c'est tout à fait naturel.
Tell us that all this is natural.
C'est bon, c'est sain.
That's great, it's healthy.
Regardez, ils ont l'air en pleine forme, pleine possession de leur jeunesse, de leurs moyens. On ne parle pas des épidémies de maladies vénériennes. On ne parle pas des mourants du sida.
Don't speak about those people that are dying from AIDS.
La seule chose qu'on en voit dans les médias, c'est le petit ruban.
The only thing we see is a little
ribbon. A red ribbon. On voit pas les souffrances, on voit pas la misère.
We don't see the suffering, we don't see the misery.
Le mercredi, nous sommes en train d'étudier donc l'Apocalypse. Nous avons parlé de l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, c'était un exemple d'église qui était à mi-chemin entre l'Évangile et le monde. Et au lieu d'influencer le monde avec l'Évangile, il laissait le monde les influencer.
The world had invaded this church.
Ils étaient à mi-chemin, ils étaient tièdes.
They were halfway, they were lukewarm.
Et Jésus a les mots les plus terribles qui soient.
And Jesus used terrible words.
C'est un verset dans Apocalypse 3, 16.
And it's verse 3, 16 of the book of Revelation.
Un autre verset à mémoriser comme Jean 3,16, Apocalypse 3,16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te rejeter, non, je vais te vomir de ma bouche.
So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth.
Prions que ce soit nous qui influencions le monde.
And let's pray that we will influence the world.
Encore une fois, même si nous ne voyons pas des résultats, Dieu nous demande d'être fidèles. Et cet auteur termine ce commentaire en disant, est-ce que vous êtes prêt à venir à lui, à Jésus ? Ce que je recherche, ce ne sont pas les tes dons, your gifts, mais celui qui donne. Je ne recherche pas les bénédictions, mais celui qui bénit. Ce n'est pas la joie, mais c'est toi, toi-même, Seigneur. Je ne cherche pas ce qui est à toi, mais je te cherche toi. Est-ce que vous avez jamais parlé au Seigneur de cette façon ? Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour inconditionnel, ton amour agapé. Tu nous aimes sans rien attendre en retour. Même lorsque nous te rejetons, nous te méprisons, nous continuons dans le péché, Seigneur, tu continues de nous aimer. Bien sûr, tu es heureux lorsque nous nous tournons vers toi. Mais de notre réponse ne dépend pas ton amour. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous ne pouvons rien faire pour que tu nous aimes moins. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire pour que tu nous aimes plus. Seigneur, mais aide-nous à te répondre en disant ce que nous cherchons, c'est pas ce que tu peux nous donner, mais c'est toi, Seigneur. Seigneur, et pour ceux qui n'auraient encore jamais recherché le Seigneur, je veux vous donner l'occasion de lui répondre. Vous pouvez prier en silence cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis loin de toi. Je suis un pécheur. Seigneur, je fais des choses qui sont contre ta volonté. Et j'ai besoin de ton pardon. Je suis désolé, Seigneur, pour ce que j'ai fait. Je te demande de me pardonner. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Que tu es ressuscité et que tu es vivant aujourd'hui. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur pour que toi, tu viennes y vivre. Ce n'est pas les bonnes choses que tu peux me donner que je cherche, mais c'est toi, Seigneur. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter ton amour, mon salut. Fais de moi la personne que tu veux. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci de me donner la vie éternelle. Si vous avez prié cette prière pendant que nous sommes encore dans le recueillement, je vous demanderai de lever la main. Pour que nous puissions vous encourager. encore une fois, peut-être que vous l'avez déjà accepté, mais vous cherchez plus les bénéfices. Et lorsque les choses ne vont pas comme sur des roulettes, alors vous commencez à douter. Demandez-lui pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, aide-nous à ne chercher que toi. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous inspire cet amour inconditionnel pour lui aussi. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, ne partez pas sans dire bonjour à quelqu'un, sans vous présenter. Bonne journée et bonne semaine.